Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Alain.
Bientôt une passation de pouvoir, ça vous a donné des idées?
Ben oui, la montée des marches, bientôt le festival de Cannes.
Ah d'accord.
L'histoire nous transmet l'éminente responsabilité d'être à la hauteur.
La montée des marches.
Tout de même, j'étais inconnu quelques mois auparavant, enfin... Et du jour au lendemain, faire une campagne électorale alors qu'on est inconnu, ça donne quand même quelques satisfactions.
Il y a deux lectures de l'entrée à l'Élysée. Celle de stricte obédience républicaine, on vient d'entendre Alain Poher, il la représente bien, il exerça deux fois l'intérim, se présentant avec insistance comme un sous-locataire, mine de rien. Cela signifiait que le candidat vainqueur n'était que le simple titulaire d'un bail. Autre lecture dans l'antique tradition du sacre. Les derniers sacres remontent au début du 19e, 1804, 1824. Rien ne disparaissant jamais en histoire, on retrouve un peu de ces sacres dans la trame du cérémonial élyséen d'aujourd'hui. La garde, sabre au clair, les 21 coups de canon, la présence de la famille, de l'heureux élu. En 1974, Valéry Giscard d'Estaing renonça à porter le collier de l'ordre de la Légion d'honneur qui remplaçait celui de Saint-Louis. Il afficha à ce moment une volonté de simplification, mais c'était en réalité pour faire une plus juste place à l'onction populaire. Lors de la première passation de pouvoir à laquelle il avait assisté, jeune homme, en 1947, il avait vu le président Auriol en jaquette et pantalon rayé, debout dans une voiture découverte d'anciens modèles, saluer des trottoirs déserts. Aussi, Giscard choisit-il de remonter lentement les champs à pied au milieu d'un grand concours d'électeurs. Et à François Mitterrand fut offert pareillement une légitimation par une foule ardente rue Soufflot qui l'accompagna jusqu'au pied du Panthéon. Aujourd'hui, les contraintes de sécurité restreignent beaucoup de répertoires dont dispose l'impétrant, mais celui-ci doit répondre à une double attente. Il faut qu'il observe rigoureusement les formes, prouvant qu'il est seulement le locataire, il faut aussi qu'il fournisse assez de signes qui prouvent qu'il prend possession de la fonction et l'incarne.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Alors au point de départ du cérémonial que je vais tenter de vous raconter, il y a peut-être cette date, 1954, Vincent Auriol était mécontent d'être arrivé presque subrepticement, après avoir rénové l'Élysée avec le concours de sa belle-fille, Jacqueline, l'aviatrice, il établit un nouveau dispositif. « Je suis entré en parvenu », dit-il explicitement, « René Coty entrera en roi ». Et ce sont ces règles de 54 qui sont appliquées très précisément en janvier 59 pour Charles de Gaulle, président du Conseil depuis 6 mois. Il avait enfoncé dans l'ombre l'Élysée, réduit à un rôle secondaire, voire subsidiaire. Son élection, une fois assurée par un collège de grands électeurs, de Gaulle fait son entrée dans un palais au lustre miroitant, au milieu des uniformes rutilants et des habits verts. 200 invités, les rares dames présentes ne sont pas mentionnées par les deux interlocuteurs.
Monsieur le Président de la République, le premier des Français est désormais le premier en France. Je suis fier de lui remettre la charge de cette maison capitale et d'avoir ainsi l'occasion de lui renouveler l'hommage qu'en y entrant j'avais tenu à lui rendre au nom de la patrie à jamais reconnaissant. La patrie, c'est quand elle était au bord de l'abîme qu'à son tour, elle a fait appel au général de Gaulle.
Monsieur le Président, messieurs, à tout ce qu'il y a d'imposant et d'émouvant dans cette cérémonie, je suis profondément sensible. Vos paroles, Monsieur le Président, dont la sagesse est d'autant plus frappante qu'elles ont été prononcées par un grand citoyen, quittant avec une dignité parfaite.
Le sortant a beaucoup facilité le retour du général. Il a donné une forme à peu près légitime aux conséquences du coup d'État des militaires le 13 mai précédent à Alger. Donc les partisans du général crient « Merci Coty !» en même temps que « Vive de Gaulle !» Ils sont massés des deux côtés des champs. À cette époque, les adieux ont lieu place de l'Étoile. De Gaulle plante là Coty, ne le raccompagne pas jusqu'à sa voiture, lui lance seulement « Au revoir, monsieur Coty !» Même pas « Au revoir, monsieur le Président !» 10 ans plus tard, 1969, le général quitte l'Élysée à la veille du référendum qui le laissera battu. Il ne remet pas les pieds au palais. À la réflexion, il n'y aura eu que 4 réelles passations de pouvoir avant celle du 14 mai prochain. Le moment 69 est cependant très particulier. Le président du Sénat, Alain Poher, assure l'intérim qu'il tente de présenter comme un exercice normal.
Française, Français, le général de Gaulle, président de la République, a décidé de mettre un terme à ses fonctions. Au soir de cette décision, que je regrette profondément, je veux tout d'abord lui exprimer les sentiments respectueux de tous ceux auxquels les difficultés du présent ne feront jamais oublier les services éminents du passé.
Ce que je ne savais pas, c'est que l'Élysée serait un peu vide. Quand je suis arrivé là-bas, c'était un peu le palais de la Belle au bois dormant, car il ne restait pas grand monde, il n'y avait pas beaucoup de dossiers ni de papiers. Ça m'a surpris un peu.
Vous n'auriez pas agi de la même manière? Vous ne seriez pas parti avec vos papiers?
Non, à première vue, non. D'abord, j'ai l'interdiction de fonctionnaire. Un fonctionnaire ne laisse ses papiers à son successeur. Ça, c'est une déformation professionnelle, sans doute. Je devais présider le Conseil des ministres du général de Gaulle. Je l'ai présidé 6 fois. Et je vous fais remarquer que c'était en dehors de M. Capitan qui était parti, c'était tous les ministres du général de Gaulle. Un des points essentiels, si vous voulez, de la continuité, puisque c'était écrit ainsi dans la Constitution, je devais présider ce Conseil des ministres. Vous savez, j'avais en face de moi M. Couve de Murville, à ma gauche M. Debray, à ma droite M. Malraux. C'était pas si simple. Et bien, ma tâche essentielle était que ces conseils des ministres se passent bien. Ils se sont très bien passés. Et mes adversaires de l'époque sont certainement les premiers à le reconnaître. Et la France a continué, elle a fonctionné. Les rouages de l'administration, les ministres ont fait leur métier. Mes relations avec le premier ministre d'alors, qui était M. Couve de Murville, ont été très correctes. Le premier ministre d'alors est un homme qui a le sens de l'État, et il devait, comme moi, penser qu'il fallait à tout prix éviter le chaos. Alors le fait que nous soyons entendus sur ce point a bien arrangé les choses. Oui. Alors nous ne sommes pas d'accord en politique avec M. Couve de Murville, mais je crois que je peux vraiment affirmer que la conjonction des deux volontés a rendu service au pays.
Oui, enfin, quand il assure son deuxième intérim, Poher, après la mort de Pompidou, avoue combien la situation était difficile en 69. Il n'avait pas, pendant 4 jours, les codes nucléaires et la mauvaise volonté des fidèles du général était évidente.
Je suis arrivé à 15h, mes collaborateurs personnels étant arrivés justement à midi moins le quart. Et je n'ai jamais cru d'ailleurs que c'était sur ordre du général de Gaulle. Le palais avait été vidé, il n'y restait rien, pas de papier, pas de dossier. Mettons quelques meubles, car les meubles n'avaient tout de même pas été déménagés. Mais au point de vue personnel, un colonel, qui n'avait qu'une idée, c'était de repartir dès mon arrivée, et je crois 2 employés des PTT affectés au service des téléphones, des télécommunications. Alors ça, c'est l'arrivée. Eh bien, cette fois-ci, c'est exactement l'inverse. J'ai été accueilli par le secrétaire général de l'Élysée, M. Balladur, qui était le secrétaire général du président Pompidou. Et celui-ci a mis à ma disposition, dans la mesure où cela me serait utile, l'ensemble des fonctionnaires et des services qui travaillaient avec le défunt président. Et c'est mis à notre disposition totale pour nous exposer les questions qu'on pourrait lui poser.
74, le chant du départ. Valérie Giscard d'Estaing veut secouer le joug de l'histoire à la Marseillaise. Il substituerait volontiers ce chant qui lui rappelle 44-45. Il substitue à la jaquette et au pantalon rayé le costume. Et afin de faire participer ceux qui l'ont élu au moment de son intronisation, il s'en va chercher les mains, les yeux sur les Champs-Élysées qu'il remonte à pied. Cette volonté du contact, une fois éprouvées les réalités de l'exercice du pouvoir, est peu à peu interprétée comme un signe de vanité personnelle. Et cette réputation s'attache au personnage de Giscard, quoi qu'il fasse, a fortiori, quand, battu en 81, il prend une dernière fois la parole à la télévision.
Française, Français, vous m'aviez donné en garde les biens les plus précieux de la collectivité nationale, la paix, la liberté et nos institutions. J'en ai été le gardien et à l'heure où je m'en vais, ils vous sont restitués intacts. Après-demain, je quitterai l'Élysée. Je viens ce soir vous dire très simplement au revoir.
Et Giscard de laisser son siège vide devant les caméras et de se diriger vers la porte. Le plan est trop long pour ne pas signifier que se creuse une rupture dans la continuité républicaine. Il est ensuite reproché aux sortants de retarder la passation de pouvoir alors que se déchaîne sur les marchés une tempête monétaire qui va amener une dévaluation. Le secrétaire général entrant, Pierre Bérégovoy, en conçoit encore plusieurs années après de la mauvaise humeur à l'endroit de son homologue Jacques Val.
Le 20 mai, c'est un mercredi. Et le mercredi, c'est le jour du Conseil des ministres. Bon, je lui dis, écoutez, monsieur Val, vous deviez le savoir, quand monsieur Giscard d'Estaing nous a proposé le 20 mai, il savait que c'était un mercredi. Ah oui, mais le Conseil des ministres est convoqué, nous devons dresser le bilan de la France. Monsieur Barre est chargé de... Alors, je vous passe sur les détails, mais François Mitterrand, auquel j'ai rendu compte, m'a dit « Mais qu'est-ce qu'il veut ? Il nous écrit le 20 mai. » Alors après, monsieur Val me dit « Mais ça pourrait être à 18h le 20 mai. » François Mitterrand me dit « Non. » Après, on était arrivé à 12h, et François Mitterrand part dans la Nièvre. Et je réussis à joindre vers 20h François Mitterrand à l'hôtel de la Vigne, à Saint-Pierre-le-Moutier, où il est avec ses amis du Conseil général. Et j'aurais dit, vous savez, il y a beaucoup de difficultés. Moi, à moins de disposer d'une force d'intervention, je ne vois pas comment je peux contraindre M. Giscard d'Estaing à accepter le 20 mai s'il ne veut pas. Alors je lui dis, je vous suggère, Président, d'accepter le 21 mai à 9h30. Qui se rappellera qu'il y a eu un Conseil des ministres le 20 ? François Mitterrand me dit, vous avez bien raison. Il était très en joie avec ses amis. Disons, il n'y avait plus du tout de fâcherie dans son propos. Il montrait déjà de la hauteur. Et finalement, nous avons consenti à M. Giscard d'Estaing qu'il y ait un Conseil des ministres le 20 mai, dont personne ne se souvient, et le 21 mai à 9h30, François Mitterrand, j'étais à ses côtés, est arrivé à l'Élysée. Nous étions partis de la rue de Bièvre. J'avais été rejoindre François Mitterrand très tôt, pour ne pas être en retard. Costume bleu marine rayé, c'était un événement. Et nous étions ensemble dans la voiture, et nous avons pris les quais, et devant l'hôtel de la Monnaie, il y avait des ouvriers qui ont salué François Mitterrand, l'applaudissant fortement, et ça a continué jusqu'à l'Élysée. C'est pour moi un moment inoubliable.
L'Élysée, où le président sortant accueille son successeur dans son bureau pour un entretien qui est bien documenté. François Mitterrand en a commencé le récit et Valérie Giscard d'Estaing, qui d'ailleurs ne l'a pas trouvé très attentif, le poursuivra ensuite ainsi.
Qu'est-ce que j'ai dit à François Mitterrand le jour de notre passation de pouvoir ? Je le dis parce qu'il a répondu récemment à un journaliste qui ne voyait pas d'inconvénient à ce que je cite les choses. J'avais réfléchi la veille au soir, j'ai pris un petit papier, je ne vais rien oublier bien sûr, et j'avais noté quatre choses qui me paraissaient importantes à connaître pour lui au début de sa prise de fonction. C'était les suivantes. La première, c'était les préparatifs que nous avions entrepris avec les Américains vis-à-vis de Kadhafi et l'action que nous envisagions de conduire. La seconde, c'était le fait que nous avions une coopération qui était antérieure à mon septennat avec les Américains sur certains aspects de recherche nucléaire. En effet, depuis un certain temps, étant donné l'importance de nos recherches en matière nucléaire, nous avions tels que certains échanges d'informations, suivant d'ailleurs une technique très particulière, détail de laquelle je n'entrerai pas. Et je voulais qu'ils sachent que cette coopération existait et que les présidents en étaient informés. Troisième point, c'est que quelques jours avant l'élection, Brejnev m'a fait transmettre un message pour me dire qu'il était prêt à venir en France. Vous vous souvenez qu'on était en pleine tension, il y avait encore l'Afghanistan, il y avait eu les événements de Pologne. Et je lui avais répondu, je ne peux pas vous répondre, puisqu'il y a une élection, et donc ce sera au président élu de vous répondre. Et j'ai indiqué au président Mitterrand qu'il y avait cette proposition ou intention de Leonid Brejnev. Et le quatrième point, c'est que quelques semaines auparavant, pendant la campagne présidentielle, il y avait un problème de peine de mort qui était posé par la procédure judiciaire. Le Conseil supérieur de la magistrature s'était réuni, m'avait donné cet avis, mais naturellement ça n'était plus pour moi, c'était pour mon successeur, et j'ai donc indiqué au président Mitterrand quel était l'avis du Conseil supérieur de la magistrature sur cette peine de mort. C'était les quatre sujets.
Vous parlez de M. Kadhafi, quel genre d'opération avez-vous envisagé avec...
Vous permettrez, je vous ai mentionné le sujet, je ne vous ai pas dit que vous voudrez entrer dans le détail, mais enfin c'était une action conjointe.
Pour se débarrasser.
Pour déstabiliser fortement le colonel Kadhafi.
En ce jour où je prends possession de la plus haute charge, je pense à ces millions et ces millions de femmes et d'hommes, ferments de notre peuple, qui, deux siècles durant, dans la paix et la guerre, par le travail et par le sang, ont façonné l'histoire de France sans y avoir accès, autrement que par de brèves et glorieuses fractures de notre société.
Le septennat de Valéry Giscard d'Estaing vient de se terminer. Il est 10h15, dehors, la foule des curieux acclame le nouveau président. À la surprise générale, le protocole ne l'avait pas prévu. Valéry Giscard d'Estaing quitte à pied le palais présidentiel. Il vient d'être salué par François Mitterrand sur le perron de l'Élysée. Le président sortant se dirige vers sa voiture. Il fait quelques pas rue d'Élysée. Les applaudissements sont alors couverts par les sifflets.
Monsieur Giscard.
Valéry Giscard d'Estaing, qui n'est pas accompagné de son épouse, regagne en compagnie de l'un de ses fils le domicile familial. La voiture, escortée de quelques motards, va longer la Seine, traverser la place de la Concorde, avant de se rendre au rond-point de Longchamp. Et c'est arrivé ici, au rond-point de Longchamp, qu'il va changer de véhicule.
On notera qu'aucun président n'a depuis commis l'erreur de s'exposer ainsi à la sortie au sifflet. François Mitterrand, élu, quitte à son tour le palais. Il a, lui, déjà désigné son premier ministre, Pierre Mauroy, qui, dans la voiture sur les Champs, tente de l'entretenir de la dévaluation inévitable. On comprend que, tout à son plaisir, le nouveau président se soit, une fois de plus, montré assez peu attentif.
Il a remonté les Champs-Élysées.
Louis Mermaz.
Et il est revenu pour un déjeuner. Et moi, j'étais à la même table, je me souviens que Jacques Delors, Alain Bombard et François Seligman. Et nous avions deux ou trois verres devant notre assiette avec des vins blancs, un très joli dégradé. Et le premier plat était un plat de poisson. Et je me suis tourné vers un maître d'hôtel et je lui ai dit « Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un peu de vin rouge, monsieur ?» Il m'a dit « Mais monsieur, c'est un repas de poisson. » Je lui ai dit « Mais la nouvelle cuisine permet de boire du vin rouge avec le poisson. » Et il m'a dit d'un air un peu dur « Mais ici, c'est pas la nouvelle cuisine. » Et je l'ai entendu après, disant à un autre maître d'hôtel « Tu te rends compte, il me demande du vin rouge avec le poisson. »
Le passage à l'hôtel de ville n'est pas un rituel absolument obligatoire. De Gaulle ne l'a pas respecté, ni non plus, bien sûr, Jacques Chirac, mais François Mitterrand s'y rend en mai 1981.
Monsieur Mitterrand vient d'être élu, et comme il est dans la tradition républicaine, il rend visite à l'hôtel de ville de Paris, je dirais aux Parisiens, à leurs élus, à leur maire. Naturellement, le nouveau président de la République est heureux, ça se voit, ça se sent. Sans ostentation, naturellement, mais profondément. Et l'entretien que nous avons eu d'un quart d'heure n'a pas été un entretien, je dirais, sur les grandes affaires, les choses. Ça a été davantage un bavardage, comment le caractériser, républicain.
Il est vrai que ce jour-là, le président de la République et celui du RPR n'ont pas besoin de se parler pour se comprendre. Ils ont atteint leur objectif commun, battre Valéry Giscard d'Estaing.
Étonnez-moi, Jack. Une commande a été passée au futur ministre de la Culture d'une cérémonie qui serait surprenante. Elle va avoir lieu, on le sait, au Panthéon.
Le Panthéon n'est pas mon idée. C'est François Mitterrand qui a souhaité que le jour de son entrée en fonction soit organisée une grande manifestation populaire au Quartier Latin. Et ce choix avait en effet une valeur symbolique.
Je me souviens
Louis Mermaz
avoir tenu par un bras Dalida, Gaston Defferre la tenant par l'autre, tellement les remous étaient violents dans la foule. Et puis brusquement, nous sommes mis en route du bas de la rue Soufflot vers le haut, et moi j'ai été pris dans un remous, je ne suis sur aucune des photos.
On s'est retrouvé rue Soufflot, là, intense bousculade. Je me suis trouvé très vite au 10e rang. D'ailleurs, si vous regardez les photographies de l'époque, vous aurez beaucoup de peine à me retrouver au premier rang, parce que, croyez-moi, ça jouait sec des coudes. Hein, vous verrez ceux qui sont au premier rang, c'est très intéressant. Je peux vous dire que cette compétition a été une des plus significatives, et elle augurait bien de la suite.
Il y a eu trop de monde, la foule a été énorme et les motards de l'escorte présidentielle, au lieu de partir par la rue Gay-Lussac, qui était pleine de monde, et sont partis par la rue Soufflot, et donc Barenboim a fait tomber sa baguette par terre en disant « j'arrête ». J'ai commencé à trembler en disant « mais qu'est-ce qui va se passer, ça va être dramatique ». Et donc on l'a forcé à reprendre l'hymne à la joie, et il l'a repris depuis le début. Donc, on a pris un retard de 10-12 minutes et j'ai commencé à me dire que l'ode à la joie était insupportable parce que tout le monde me courait après en me disant « il faut arrêter cet hymne », notamment Gaston Defferre qui me demande d'arrêter en me disant « mais on va le tuer, d'un toit il va y avoir un tireur ». Alors du coup, j'ai commencé à trembler, mais j'ai dit « je peux pas arrêter l'hymne à la joie » et donc François Mitterrand est resté sous la pluie.
Entendu tout à l'heure Christian Dupavillon, et ce qu'on entend ici, c'est la version de l'ode à la joie telle qu'elle est imprimée dans l'hymne européen. Dans la version 81, c'était Von Karajan. Serge Moati a aussitôt vu dans la scénographie du Louvre de dimanche un hommage à la sienne au Panthéon. Il y a eu une difficulté quand même cette année, c'est que la version retenue par l'équipe Macron était courte pour la longue marche solitaire de l'élu au pied de la pyramide. Mais qu'à cela ne tienne, on l'a joué deux fois et personne ne s'en est soucié. Il faudrait parler de la passation de pouvoir glaciale Sarkozy-Hollande, de la passation de pouvoir tendre presque. C'est Patrice Duhamel qui emploie ce mot dans un film qu'il consacre aux passations de pouvoir et qu'on verra le 14 mai entre Chirac et Mitterrand. Il s'est passé cette année-là deux ou trois choses qui ont un sens. La visite de Jean d'Ormesson. Vous venez pour Jacques Chirac, lui demandait les passants. Non, je viens pour François Mitterrand. François Mitterrand lui a dit des mots qu'un président, en principe, ne dit pas et qu'on ne répétera pas. La passation de pouvoir s'est terminée par un séjour rapide à Solferino, où dans le hall, Jean-Luc Mélenchon a accueilli le président sortant, le voyant hésiter devant l'escalier. Il lui a dit « on va prendre l'ascenseur avant qu'il ne soit déglingué ». Parce qu'il est déglingué, demande François Mitterrand. Et Mélenchon a répondu « tout se déglingue ici ». La question que se pose l'artiste élyséen quand il part, il faut partir, ou il faut parler aussi de ceux qui quittent le pouvoir. C'est « l'ai-je bien descendu ?» On reconnaîtra ce souci chez ce ministre en partance. Il appartient à plusieurs familles politiques, tour à tour. En 2002, il se tenait devant ses cartons, gueule béante. Nous sommes maintenant non loin de l'Élysée, rue de Valois.
Il n'y a plus personne. C'est incroyable. C'est devenu le palais hanté. Il n'y a plus personne. Tout le monde est parti. Non, il n'y a personne. Regardez. Regardez le bureau. Moi, je ne suis pas dans le bureau de Malraux, mais le bureau de Malraux, qui est le bureau du directeur de cabinet maintenant, est vide. C'est vide. Personne.
Ils auraient pu vous attendre quand même.
Bah non. Non, non. À partir du moment où on leur trouve une nouvelle affectation, il faut vite qu'ils la rejoignent, autrement elle va être prise par quelqu'un d'autre. Il y en a quelques-uns qui se retrouvent au chômage. C'est pas pour faire pleurer Margot que je dis ça. Je dis simplement que c'est pas aussi simple qu'on imagine. Voilà. Voilà, on a mis ma photo, vous voyez, c'est un peu comme dans les cigares du pharaon, quand on passe. Voilà, maintenant il y a Fredo, il manque Milou, là.
Ça vous inspire quoi?
Je dis, c'est les cigares du pharaon. Vous savez, quand Tintin et Milou passent devant les sarcophages, et qu'il y a les noms de tous les gens qui ont été embaumés. Et donc, tout d'un coup, ils voient deux sarcophages qui sont vides, et sur lesquels il y a marqué Tintin et Milou. Ça veut dire que c'est le sort qui les attend. Et voilà, chaque fois, j'ai l'impression de voir la même chose. Alors, jusque-là, maintenant, ils sont tous morts. Je suis en train de finir de ranger mes cartons. Enfin, vraiment, là, tout est parti, déjà. Je ne suis jamais allé à aucune passation. Voilà, je regarde ça à la télévision, comme tout le monde, c'est très bien.
Souhaitons que restent hors des cartons personnels les papiers rédigés par les responsables de tout niveau dans le cadre de leur fonction officielle. Ces papiers appartiennent à la République, aux archives nationales. Alors, dans les archives radiophoniques, télévisuelles, nous avons utilisé des émissions de Michel Cotta, de Patrice Duhamel. Je rappelle son documentaire « Jour de sacre » le 14 mai prochain sur France 5. De Patrice Gélinet, notre illustre prédécesseur d'Amaury Chardot. Et tout cela a été choisi par Nathan Gallo avec à la réalisation Valérie Aïstaraï et à la technique Arnaud Caillet. Alors, qu'est-ce que vous nous racontez, cher Mathieu Vidard?
Oui, Jean, on pourra prolonger votre émission dans un instant en parlant des monstres politiques, puisque le sujet, eh bien, ce sont les monstres en général et les monstruosités pour parler de l'anormalité dans la nature.
À tout à l'heure.